Cola,
vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices, bonjour et vous rentrez dans le 9e chapitre du 3e tome de Polar, Vin et Compagnie. Alors j'ai l'impression d'être à la gendarmerie de Compreignac avec le colonel Florent, le capitaine Guy et les gendarmes Domi, Lionel et Christian. Voilà, on est nombreux et Nico qui est en train de faire les transitions radio qui...
C'est la police scientifique.
Voilà. Guy.
Oui.
Le retour d'une activité que Cap Polar Sud Aveyron avait déjà proposée par le passé, les ateliers écriture. On va beaucoup parler de cela en première partie de cette émission.
Oui, c'est vrai. Par le passé, nous avions organisé des ateliers d'écriture, qui étaient des ateliers un peu au long cours sur 6 semaines, plusieurs mois. On a organisé avec des noms... de qualité, Benoît Severac, Cédric Fabre, Hervé Jubert, plus récemment avec Laurence Biberfeld, et encore plus récemment, en 2025, avec Louise Oligny, Éric Goffin et Maya Thérier.
Alors là, c'est une nouvelle formule qui est proposée, qui est plus légère mais moins onéreuse, puisqu'on pourrait dire qu'elle est en autogestion.
Tout à fait, c'est une nouvelle formule que nous avons retenue, qu'on peut plutôt appeler jeu d'écriture qu'atelier écriture. Il s'agit là de travailler sur une matinée par rapport à un sujet qui est donné, dans une contrainte donnée, pour sortir un peu de matière, entre guillemets, littéraire.
Et formule qui obtient un certain succès.
Oui, on a un succès important, puisqu'on est au 4e atelier, on n'est pas moins depuis le mois de décembre, et on n'est pas moins de 16 participants à avoir assisté à ces ateliers, qui ont l'avantage de ne pas avoir nécessairement de suite obligatoire.
Les ateliers écriture sont de plus en plus nombreux, mais que vient-on y chercher? Alors, on a interrogé des participants et participantes à l'un de ces ateliers.
J'écris parce que ça me procure du plaisir, tout simplement.
C'est une façon de, je sais pas, de se confier, une manière détournée un peu, mais sans forcément passer par une conversation directe.
Pour mettre les pensées en mots, en détail, et essayer de construire quelque chose, quoi. Et puis faire travailler, oui, surtout l'imaginaire.
C'est un peu comme, tu sais, les cauchemars que tu fais. Il y a des trucs que tu te sors dans les cauchemars, tout ça. Et puis, c'est l'inconscient qui parle, moi, quand j'écris. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Après, j'ai des idées qui me viennent beaucoup par rapport à ce que je viens de lire ou de voir.
L'écriture, c'est ma source de joie, personnellement. Donc, j'ai écrit déjà plusieurs livres. J'adore ça. Écrire, ça m'a sauvé la vie.
Écrire, ça m'a sauvé la vie, c'est fort, ça. Bon, voilà, chacun y va pour... certains, c'est peut-être presque une thérapie. Pour d'autres, c'est juste l'occasion de s'exprimer. Tu confirmes, Guy?
Bah oui, de toute façon, c'est un peu ce que nous avions souhaité mettre en place avec Michel et Lionel pour essayer d'apporter quelque chose de ludique et permettre à chacun de s'épanouir au travers des écrits et librement.
Comment ça s'organise, un atelier d'écriture Cap Polar, Sud Aveyron?
Actuellement, nous faisons un atelier tous les mois. On va essayer peut-être de les faire un peu plus nombreux. Ça dépendra un peu du nombre de participants, parce que 16, si tous les 16 inscrits viennent, ça fait un peu lourd, peut-être, à gérer. On a confié une organisation sur l'animation de chaque atelier à tour de rôle. Chacun peut se porter candidat pour animer un atelier. On essaie quand même de garder un peu d'originalité. On a des contraintes qui sont données, qui peuvent être variables. On a travaillé sur des textes à partir de photos, à partir de mots. Et dernièrement, on a fait un dernier atelier qui s'est tenu à partir d'une grille de mots croisés, de laquelle on a sorti 11 mots qui n'avaient pas nécessairement de relation avec le polar. Et à partir de là, en une 30 minutes, il fallait écrire un texte type polar. En étant assez attentif à ne pas partir trop sur... la forme, puisque la forme c'était mettre ses mots coûte que coûte et garder un peu de fond dans le texte. ce qui n'était pas si aisé que ça. Mais on a quelques résultats qui sont sympathiques.
Et on va avoir quelques exemples qui vont
aujourd'hui
suivre.
Aujourd'hui même, oui.
Est-ce que le polar, enfin, ou le polar et roman noir, est-ce que c'est, ça reste un sujet obligatoire ou pas, où les gens s'expriment sur d'autres choses? Les ateliers de Cap Polar.
Dans les ateliers, pour le moment, on n'a jamais mis de contraintes polar, mais naturellement, puisqu'on est chez Culture Art Polar... Sud Aveyron, Polar 20 et compagnie, il y a toujours une petite... on part toujours vers un peu le polar. Le dernier atelier, il y avait une contrainte de partir dans le polar avec des mots qui, de tous les jours. Voilà.
On retrouve nos écrivains et écrivaines en devenir qui nous expliquent pourquoi ils participent à ces ateliers.
Alors moi, c'est pour jouer avec les mots, jouer avec l'écriture, les textes, c'est provoquer l'imagination.
Bah, c'est un petit peu un défi personnel. Pour essayer de sortir un peu de sa zone de confort, je dirais.
Participer aux ateliers d'écriture, c'est juste une source de bonheur.
Ah ben moi, c'est pour le plaisir, j'adore ça. D'abord, j'aime bien écrire. Et puis, ce que j'aime bien, c'est toutes ces visions différentes, toutes ces rencontres. On rencontre des personnalités, des gens, des styles différents. Je trouve ça vraiment très, très, très passionnant.
C'est de constater que, un, je ne suis pas tout seul dans mon coin à écrire. On est tous différents dans ce qu'on produit, dans nos idées, dans nos styles, dans tout ça, quoi.
Je prends assez de plaisir à écrire comme ça dans mon coin, mais après c'est vraiment le passage à l'oral, là c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que quand j'ai lu mon texte tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'ai pas mis le ton par exemple, et c'est bien pour s'entraîner aussi là-dessus à l'oral, voilà. En plus de l'écrit, voilà, de confronter aussi ce qu'on a envie de dire à tout le monde. Voilà.
Je n'ai pas envie d'écrire sur des choses au long cours, mais sur le moment, trouver l'inspiration comme ça sur le vif, je trouve ça très, très intéressant. C'est un peu jubilatoire quand on se met à écrire comme ça et on ne sait pas très bien où on va, mais on y va, donc c'est super sympa.
Déjà, d'écouter les autres, de voir ce qu'ils font, ça m'enrichit. Moi, c'est aller au bout justement d'une envie d'arriver à écrire, alors que j'ai l'impression que je ne pourrais pas. Et finalement, ça vient. Petit à petit, ça vient. Et d'écouter les autres, ça rassure, et puis ça se passe bien.
J'ai été surpris par ces réponses. J'étais persuadé que l'activité écriture était une activité individuelle. Mais non, en fait, les gens viennent aussi chercher ce côté social.
Oui, parce qu'il y a un réel échange. En fait, c'est assez amusant. On échange sur... Enfin, moi, pour les... Ils ont parlé pour nous. Hein. Il y a un échange réel autour des textes produits par les uns et par les autres. Et c'est très intéressant.
Alors, pour les personnes qui voudraient se joindre à ces groupes, que doivent-ils faire dans la mesure où il y a encore un petit peu de place et que vous ne refusez pas les gens?
On refuse personne, par principe. Pour ceux qui veulent participer, bon, idéalement, il faudrait qu'ils nous contactent par notre mail capsudaveyron12 en chiffres, @gmail.com, ou qu'ils aillent sur notre blog, ou éventuellement qu'ils aillent sur le site de Radio Larzac où le lien de notre blog est déjà donné.
Voilà. Sur les pages,
De l'émission.
Polar V et compagnie, voilà. Tout à fait. Et donc une adhésion de 12 euros pour l'année.
Oui, l'association, il faut adhérer à l'association pour participer, donc c'est 12 euros pour l'année.
Avant d'écouter un exemple de ce type de travail, pardon, tu as autre chose encore à rajouter?
Donc les exemples de ce travail d'aujourd'hui sont partis d'une grille de mots croisés, donc il faut donner quand même un petit élément. C'était une grille de mots croisés qu'il fallait résoudre. Il y a eu un travail de 30 minutes à partir des 11 mots sortis de cette grille. Les mots, je vais les citer comme ça permettra à tout un chacun d'apprécier le texte. Il y a le mot camping, canette, hôtel, étau, uni, tournante, cacahuète, pente, lésant, époux et tondu.
Comment ils ont été choisis ces mots?
C'est sorti de la grille de mots croisés.
Ah, d'accord.
Et de l'esprit un peu tortueux d'un des membres de l'association qui était à ta droite et à ma gauche. Là.
Avant d'écouter le premier texte, on a l'inspecteur des rives qui est parmi nous et qui va nous donner quelques conseils d'écriture.
Pas vraiment des conseils, donc comme j'ai rien de spécial à vendre, ce que je vais vous dire sera plutôt de l'ordre de l'anecdote. Donc voici le décalogue de Knox, édité, rédigé en 1929, et qui nous invite à suivre les 10 lois indispensables à tout bon roman policier. En 1929, personne ne panique. Première loi, le criminel doit être quelqu'un mentionné plus tôt dans l'histoire, mais pas quelqu'un dont le lecteur a pu suivre les pensées. Numéro 2, le détective ne doit pas utiliser de techniques surnaturelles pour résoudre une affaire. Troisièmement, l'usage de plus d'un passage secret ne saurait être toléré. Même dans le cas d'un seul passage secret, il faudrait que l'action se passe dans une maison où la présence de ce type de dispositif était prévisible. Quatrièmement, des poisons inconnus ne peuvent être utilisés, ni aucune machine, de telle sorte que le lecteur ne soit pas embarrassé par une longue explication scientifique en conclusion. Cinquième point, aucun Chinois ne doit figurer dans l'histoire. Je prends note que tu as. Sixième point, aucun accident ne doit aider le détective. De même, on ne doit avoir recours à aucune intuition divine inexplicable. Toutes ces intuitions doivent avoir une origine et se confirmer par la suite. Loi numéro 7. Le détective ne doit pas commettre lui-même le crime. Loi numéro 8. Le détective ne doit pas utiliser des indices qui n'ont pas été présentés au lecteur pour résoudre l'affaire. Loi numéro 9. L'ami idiot du détective, le Watson, ne doit cacher aucune des pensées qui lui traversent l'esprit. Son intelligence doit être un peu, mais très peu, inférieure à celle du lecteur moyen. Loi numéro 10, il ne doit pas être fait usage de jumeaux ou doubles, sauf si le lecteur y a été préparé. Voilà, alors Robert Knox, c'était un prêtre, mais qui a écrit une demi-douzaine de romans policiers et qui a édité ses lois. Alors, c'est un auteur anglais, féru de radio. Il prêchait à la radio et puis il parlait aussi de romans policiers à la radio. C'est un contemporain d'Agatha Christie, un passionné de Conan Doyle et de Sherlock Holmes. Il a même lancé ce qu'on appelle les études holmésiennes, puisqu'il a remis en question certaines énigmes de Sherlock Holmes. Donc, il connaissait bien Agatha Christie, qui n'a jamais suivi aucune de ses lois. Alors ça peut-être un challenge pour un atelier d'écriture, prendre une loi au hasard, par exemple, pas de chinois, et voilà, faire une facile nouvelle avec un chinois, vous voyez. Enfin voilà, donc pas de panique, hein, c'est 1929, mais j'ai trouvé ça assez amusant à lire.
C'était voilà, très drôle, et ça vaudrait le coup de faire une interview d'un des auteurs, qu'on a l'habitude, mais comme on a régulièrement, on interviewe des auteurs, des vrais auteurs, pas de 1929, mais de maintenant, ce serait marrant. Et le docteur Watson a dû apprécier d'être traité d'idiot.
Si. Absolument. Ouais, c'était ma
je fais des séances inférieures à la moyenne des lecteurs.
Légèrement.
On écoute Christian qui nous fait part de sa nouvelle.
Pour leur second week-end en amoureux, elle lui avait promis un hôtel confortable. Après avoir cherché longtemps, il n'avait trouvé qu'un simple camping au bout d'une rue très pentue. À 22h, il n'était plus question de trouver un restaurant ouvert. Ils se contenteraient donc de quelques canettes et d'un stock de cacahuètes dont ils avaient heureusement fait provision. Ils sortirent de la tente pour aller visiter le coin. Il y a sans doute un moment que l'herbe n'a pas été tondue. Oui, c'est important. Non, mais c'est juste ce que ce mot fait partie de ma liste.
De ta liste?
Oui, enfin, c'est pas simple à expliquer. Elle se sentait lésée, mais bon, elle comprendrait peut-être un peu plus tard. Ils arrivèrent bientôt dans un endroit un peu glauque, un lieu qui servait sans doute de dépotoir aux gens du village, peu soucieux de l'environnement. La nuit aidant, l'atmosphère n'était guère rassurante. On rentre?
Ouais.
Attends, il y a de la lumière dans la cabane là-bas. Vas-y tout seul, je vais dormir. Il hésita. Tout de même, sa curiosité lui commandait d'aller voir. Une voiture de police arriva à vive allure et s'arrêta net devant la baraque. Quatre policiers armés sortirent du véhicule suffisamment rapidement pour le convaincre de ne pas avancer davantage. Il les revit quelques minutes plus tard en compagnie de trois hommes menottés. « Que se passait-il donc à l'intérieur » demanda-t-il. Un policier, sur un ton détaché, lui répondit « Encore une tournante.
Ouais, » Merci Christian. Je vois Nico qui nous fait de grands signes. Oui Nico ?
Et oui, je suis désolé, l'actu nous rattrape, il y a un flash.
Ok, ben vas-y. Flash Info, ce n'est pas dans nos habitudes à Radio Larzac, mais l'événement est suffisamment grave pour que nous en parlions. Près du viaduc de Millau, le cadavre de Paul Gasteuil est découvert portant un masque de diable. Cette étrange mise en scène semble liée à la légende de Saint-Enémie et intrigue Alice Nerval, capitaine de gendarmerie de Millau, chargée de l'enquête. On s'amuse comme on peut à Polarvet et compagnie. Dimanche dernier, à l'initiative de Céline Galton-Thomassé de Aveyron Cinéma, le téléfilm Meurtres à Millau, réalisé par Jean-Marc Brondolo, qui avait été diffusé fin janvier sur France 3, a été projeté sur grand écran au cinéma de Millau et l'association Capolar a assuré l'animation de l'échange d'après-projection auquel ont participé Manuel Garcia d'Aveyron Cinéma, qui a travaillé sur le repérage de Meurtres à Millau, Pablo, le jeune adolescent qui joue Léo, le fils de la capitaine Alice Nerval, donc un jeune acteur en devenir qui est du Millavois. Guillaume Prax, responsable commercial de la Maison Fabre qui a fourni les gants pour ce tournage. Et pour d'autres films également, comme Syntex, le film de Pablo Aguero avec Louis Garrel, Diane Kruger et Vincent Cassel, sorti fin 2024. Était également présente Aurélia Rousseau, coordinatrice de production du film, qui représentait Pernel Media, dont nous avions interviewé le directeur Samuel Kissou, producteur de ce téléfilm. L'occasion de vous faire découvrir les coulisses de la fabrication d'un téléfilm. Commençons par rappeler quel est le rôle du producteur.
Mon rôle sur Meurtres à Millau, ça a été de déjà proposer cette idée à France Télévisions, puis de la proposer à un scénariste, Mathieu Savignac, de travailler avec le scénariste pour élaborer la meilleure proposition possible. Et ensuite, une fois que France Télévisions nous a donné son accord, de le développer avec Mathieu et de mettre en place toute l'équipe, le réalisateur, la production, etc., et d'encadrer le projet jusqu'à sa bonne fin. On dit que le producteur, c'est la personne qui vend l'idée et qui est garant de la bonne fin du projet dans tous ses aspects.
Chaque épisode de la collection Meurtre A visite un lieu différent depuis 12 saisons. Alors pourquoi Millau pour ce 125e épisode ?
Eh bien tout simplement parce que donc moi je dirige une société qui s'appelle Pernel Media, que j'ai créée il y a plus de 15 ans, et on a produit beaucoup de documentaires. Notamment, on a déjà produit des documentaires sur le viaduc de Millau. On sait que c'est un lieu iconique pour les Français. C'est un monument qui fascine les Français. C'est visuellement exceptionnel. Le viaduc de Millau parle aux Français dans leur imaginaire collectif. Donc, on trouvait que ce serait un lieu magnifique pour créer autour une intrigue de polar. Et sachant qu'il y a non seulement le viaduc de Millau, mais il y a les gorges du Tarn, il y a Saint-Enémie, finalement toute la région recèle de trésors visuels, si on peut dire, qui permettent de proposer aux téléspectateurs non seulement une intrigue policière palpitante, mais aussi un véritable voyage dans la région promettant de très belles images.
Sans oublier les gants et les légendes, puisque j'ai l'impression que c'est une sorte de marque de fabrique de cette série.
Le concept des meurtres, c'est de se dérouler à chaque fois dans un lieu différent, et le lieu fait partie intégrante de l'histoire. C'est-à-dire que l'intrigue de Meurtres à Millau n'aurait pas pu se dérouler dans un autre lieu, au sens où tout est lié aux éléments régionaux. Donc, en effet, les principales suspects, c'est une grande famille de gantiers implantée à Millau. La personne qui se fait assassiner se trouve être le responsable d'un centre de sauvegarde des rapaces. Il se trouve que, par ailleurs, nous avons aussi réalisé un documentaire sur les vautours des Grands Causses. Donc, on savait aussi que la région est un sanctuaire pour les rapaces. Donc, on trouvait ça très intéressant d'avoir un personnage qui est lié à ça. Et en effet, la légende de Saint-Enémie, puisque l'ADN des meurtres, c'est une intrigue qui démarre avec une légende locale. Et on a trouvé que la légende de Saint-Enémie était à la fois très intéressante et aussi, encore une fois, incarnée par un lieu qui est magnifique.
Voilà ce qui est pour les particularités de cette série. Mais peut-on parler de série ?
On parle d'ailleurs plutôt de collection que de série, au sens où chaque épisode se regarde indépendamment des autres. Et en effet, chaque épisode, c'est comme un film de 90 minutes, avec des acteurs différents, une intrigue différente et un lieu différent. Donc, il y a eu peut-être une ou deux exceptions, mais en principe, chaque épisode de Meurtra propose vraiment un nouveau casting.
Donc, c'est une collection franco-belge. C'est diffusé sur France 3, on l'a dit. C'est diffusé en Belgique, sur La Une, en Suisse, sur RTS 1. 4 200 000 téléspectateurs pour Meurtra Mio.
Je vais vous apporter une toute petite information. On est très, très fiers de vous dire que, en réalité, l'audience de Meurtra Mio, c'est plus que 5 millions de personnes.
Ah bon ?
Parce que maintenant, on parle beaucoup de l'audience non linéaire, c'est-à-dire, vous avez l'audience de la soirée même, la diffusion sur France 3, qui a fait un peu plus de 4 millions. Mais une semaine plus tard, avec le replay, au final, on arrive à plus de 5 millions de téléspectateurs, 5,1 pour être précis. Et c'est tout simplement la meilleure audience de prime time en France, toutes chaînes confondues, du mois de janvier. Donc en fait, Meurtra Mio est un énorme carton. C'est un record d'audience. Et c'est aussi le record d'audience de la collection Meurtra depuis la rentrée de septembre. Donc on peut dire que Mio a porté chance et que cet épisode a vraiment passionné les téléspectateurs.
Bah, quel succès, n'en déplaise aux quelques fâcheux qui ont déversé leur rancœur sur les réseaux sociaux. Et il y en a ici. Alors, qu'a pensé Samuel Kissou de tourner justement dans notre magnifique région ?
On est très heureux d'avoir tourné dans la région. Il y a un vivier de techniciens, de personnes extrêmement compétentes, à tel point d'ailleurs qu'on a tourné Meurtra Mio l'hiver dernier, en février-mars, et puis ensuite, on a décidé de revenir dans la région. Alors c'est la région Occitanie au sens large, hein, j'avoue, c'est pas que l'Aveyron. Et d'ailleurs la région Occitanie est partenaire de Meurtra Mio. Ils ont apporté très concrètement une subvention pour accompagner le tournage et la production.
On a parlé d'Aveyron Cinéma. Quel a été son rôle pendant ce tournage et dans sa participation au succès de Meurtra Mio?
Nous, Aveyron Cinéma, en fait, on aide les producteurs et les repéreurs en début de projet. On a rencontré le directeur de production en février 2024 exactement. Et c'était un peu le projet assez balbutiement avec un premier scénario. Et on donc savait qu'il y avait cette envie de venir tourner cet épisode dans le sud d'Aveyron. Effectivement, c'était déjà basé sur Saint-Enimi, Millau, le viaduc. Il y avait quand même les grandes lignes qui étaient fixées. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de pouvoir faciliter le tournage et du coup d'apporter des contacts locaux à l'équipe de production pour, on va dire, être plus efficace et puis aller plus vite quand la production n'est pas sur place. Ensuite, en juin 2024, on a pu accueillir le repéreur et puis le directeur de production, Amio, qui cherchait des bureaux, qui cherchait des décors, qui cherchait des lieux, qui ont rencontré pas mal de personnes, voilà, pendant 2 ou 3 semaines. Ensuite, il y a l'équipe qui a changé. On a pu recontacter les personnes, mais comme ils avaient déjà toute la ligne, le tournage a pu se réaliser. Et nous, ensuite, on laisse faire, parce qu'on n'est pas dans l'équipe de production. On peut apporter des contacts au niveau de l'équipe technique pour des renforts, par exemple, au niveau de la régie ou des techniciens. Mais normalement, l'équipe est quand même assez complète.
Oui, c'est ce que j'allais demander. Vous n'allez pas jusqu'à être régisseur. Vous faites de la mise en contact, en fait, plutôt.
Non, mais on met en contact et on facilite toutes les relations locales.
Concernant le casting, la particularité de cette série est de faire mener l'enquête par un binôme et de faire jouer un des deux rôles par des acteurs, actrices qu'on n'attend pas forcément dans ce type de réalisation. Bon, j'en ai noté quelques-uns comme ça. Il y a eu Bruno Solo, Clémentine Sélarier, Adriana Carambeu, Richard Berry, Michel Bernier, Michel Simès, Michel Jonas, Lynn Renaud. Pour Meurtra Mio, le choix s'est porté sur Élodie Frégé pour interpréter la capitaine Alice Nerval, qui voit arriver son beau-père, Adrien Nerval, pour la seconder dans son enquête. Interprété par Jean-Pierre Daroussin. Pourquoi ce choix ?
J'ai voulu proposer le rôle à Jean-Pierre Daroussin. Je trouvais que on avait développé avec Mathieu Savignac, le scénariste, un personnage de flic un peu sur le retour, qui a dû être mis à pied, qui doit faire ses preuves auprès de sa famille, qui doit faire ses preuves sur un plan professionnel, qui a des enjeux assez profonds. Et donc on s'est dit, c'est un personnage qui est suffisamment riche pour intéresser un acteur tel que Jean-Pierre Daroussin. On a été très heureux qu'il aime le script et qu'il aime ce personnage. Et ensuite, on a su que Jean-Pierre Darroussin et Élodie Frégé avaient joué ensemble au théâtre. Et je me suis dit, ah, ce serait génial de reconstituer ce duo. Ça permettrait d'avoir une forme de complicité entre eux qui sera utile pour nourrir les personnages. Et c'est vrai que le tournage s'est très bien passé parce que il y avait une très bonne ambiance. Voilà, je pense que tout le monde était content d'être dans la région, qui est très agréable. Et les comédiens étaient vraiment très contents d'être là aussi, même si on était en hiver, donc forcément il faisait un peu plus froid. Mais le tournage s'est vraiment très bien déroulé, c'était un plaisir.
Vous venez d'entendre quelques extraits de l'interview de Samuel Kissou de Pernel Media, producteur du téléfilm Meurtres à Millau. Vous pouvez retrouver l'interview complète dans Supplément d'agenda sur radiolarzac.org. Une interview préparée avec Céline Galton-Thomassé d'Aveyron Cinéma et Chloé Azaïs du journal de Millau. Alors j'aurais aimé revenir quand même sur d'autres personnages dont on a très peu parlé, c'est notamment le scénariste Mathieu Savignac que j'ai essayé de joindre sans succès. J'ai trouvé peu d'informations sur lui. Scénariste et dialoguiste, il est né en 66. Il avait déjà écrit les scénarios de plusieurs épisodes de Meurtre à Chantilly, Meurtre à la Pointe du Raz. Il est connu notamment pour une mini-série Police de caractère dont la capitaine Louise Pochelina, la capitaine de police, n'était autre que Clémentine Célarier. Et il a aussi écrit une pièce, Le Secret, qui a obtenu un certain succès. Voilà, c'est tout ce que j'aurais aimé pouvoir en dire plus et pouvoir l'interviewer. Peut-être une autre fois, hein, on ne sait pas. Alors, pour revenir au casting, alors Élodie Frégé, j'en avais très vaguement entendu parler plutôt en tant que chanteuse, puisqu'elle avait été lauréate de Star Academy 2003. Ça remonte déjà, elle a enregistré plusieurs disques. Elle s'est essayée au cinéma avec succès en tournant dans Potiche de François Ozon. Elle jouait le rôle de Suzanne Pujol jeune. Suzanne Pujol est interprétée par Catherine Deneuve. Samuel Kissou parlait de cette pièce de théâtre qu'ils jouaient ensemble, Principe d'incertitude, qui est une pièce de Manon Solo, où elle partageait donc les planches avec Jean-Pierre Darroussin. Jean-Pierre Darroussin, qui est un petit peu plus connu, cet acteur cher à Guédi Guian, et il avait tourné dans un film que nous, on aime bien. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le film qu'on aime, mais en tout cas, on adore le roman, c'est « On ne meurt que deux fois ». Qui est un film de Jacques Deray, qui a été tourné en 1985, mais qui est surtout tiré d'un des romans de Robin Cook. En 1998, Jean-Pierre Darroussin avait interprété le Poulpe, dont on avait parlé ici sur un spécial Noël, quand on parlait de cadeaux, donc le film Le Poulpe de Guillaume Nicloux, tiré de la fameuse série littéraire Le Poulpe, ce détective libertaire, indépendant, lancé par Jean Trou.
Jean-Bernard
sur le prénom, voilà, Jean-Bernard Pouy, merci, les souffleurs. Bon, il y a tout un cahier des charges pour écrire un roman du Poulpe avec notamment un titre un petit peu déjanté. Donc le tout premier de Jean-Bernard Pouy avait s'appelé « La petite écuyère à cafeter ». On pourrait citer « Nazi dans le métro »,« Arrête tes six magrets » qui se tournent évidemment dans le sud-ouest. Voilà, voilà. Et alors, dans le film « Le Poulpe », dans la bande son, il y a un de mes morceaux préférés des Pixies. Exceptionnellement, pas de rubrique vin parce que, vous l'avez compris, ce Polar Vieille Compagnie chapitre 9 est bien chargé déjà. Par contre, des surprises, on revient à des lectures de nouvelles.
Oui, donc parmi les nouvelles qui ont été fabriquées, nouvelles, on va dire, les petits textes qui ont été fabriqués.
Ouais, tu vas nous rappeler les mots.
Nous avons, issus d'une grille de mots croisés, nous avions les mots camping, canette, hôtel, étau, uni, tournante, cacahuète, pente, lésan, époux et tondu.
Donc c'est Domi qui va nous lire son jeu d'écriture avec ses 11 mots.
Absolument pas policier, plutôt noir, oui. Très très noir un peu. Voilà, mais un peu drôle aussi, enfin, je sais pas. En dehors de son métier actuel d'homme à tout faire, dans ce miteux camping en pente, il était artiste à l'étau dans son temps libre. Il était sculpteur, sculpteur sur bois, sculpteur sur pierre, etc. Il y a 10 ans, chose rigolote, il avait rencontré, cliente à son hôtel où il travaillait, son amour vrai, son horizon, son épouse, hélas trop vite disparue. Ils seraient unis, for sure. Sauf que lui avait été tondu 3 jours avant. Comme tous les ans, il s'était refait une coupe. Il se sentait lésé de son premier pouvoir de séduction, ses cheveux. Mais il avait d'autres ressources. Alors revenant à lui, la tête tournante comme une poupée de film d'horreur, un sourire avec les dents qui scintillent, il établit un plan. Il en parle à Eric, le patron de l'hôtel, et le soir même, comme la semaine dernière, emballer ses pesées, 2 tréteaux, une nappe, tapas petit four, cacahuètes, filet de canette, accompagné d'un petit sauvignon de derrière les fagots, quelques cubis du fond de la cave, des éclairages obliques, 2 paravents, 2 canapés, des zones d'ombre, plus particulièrement sur la droite vers le mur ventru de la salle à manger. Tout le monde passait par là, tout le monde s'arrêterait, forcément. Donc Sarah aussi, forcément.
C'est plus du Camoulox que de la nouvelle, non?
Mais c'est pas de la nouvelle, c'est un texte écrit en 30 minutes quand même.
Oui, non, des contraintes. Je dis ça avec humour et avec respect parce que je serais complètement incapable de faire ce genre d'exercice.
Les poètes, ce sont les mots qui ont été cités. Voilà. On n'avait pas la boîte à meux, donc on a fait avec le poète. Christian, il va lire le texte de Lionel. Voilà.
Marcel ne se souvenait pas vraiment comment il s'était retrouvé à poil dans ce camping, une canette de bière à la main et les baloches au vent. L'étau qui lui enserrait la tête arrivait même à faire souffrir la cacahuète qui lui servait quotidiennement de cerveau. Tout avait commencé dans cet hôtel borgne par une soirée spiritisme, tarot, invocation des esprits, table tournante, etc. Il aurait peut-être dû se méfier quand le médium, une véritable armoire normande tondue à Z, était soi-disant entré en transe. L'objet était de faire parler les époux Turange, les parents de Marcel décédés peu de temps avant, et de tenter de leur faire avouer où ils avaient planqué le magot. La famille Turange, cambrioleur de père en fils et de mère en fille, n'était néanmoins pas ce que l'on pouvait appeler une famille unie. Mais de là à clamser sans avouer où était planqué le pognon, lésant ainsi toute la descendance du fruit de leur forfait, on pouvait penser qu'il y avait de l'abus. Marcel, on connaît la puissance de son intellect, décida que le mieux était de remonter à la source de ses emmerdements. Se drapant d'un duvet dérobé dans une tente, il se mit en route vers l'hôtel. La route qui y menait était malheureusement en pente. Les 2 pieds pris dans le duvet lui donnaient une démarche de canette sous acide. Sa réputation allait en souffrir, c'est sûr.
Guy, prochain atelier, ce sera quand ?
Le prochain atelier, ça sera le 7 mars à la salle Galerie au Créa à 9h30. C'est un peu tôt, mais ça laisse le temps de travailler sereinement jusqu'à 12h30 maximum.
Ok, super, ben merci. On mettra sur la page de cette émission un lien vers l'émission La Bande Originale France Inter, qui, la veille de la diffusion de Meurtre à Millau, avait fait une émission spéciale avec comme invité Élodie Frégé et Jean-Pierre Daroussin. Il est temps de refermer ce chapitre 9 du tome 3 de Polar Vin et Compagnie.
Vous pouvez nous retrouver évidemment en podcast sur la page Polar Vin et Compagnie sur le site radiolarzac.org, en rediffusion mardi à 16h et dans 15 jours, on se retrouve, on reparlera du prix Robin Cook avec le livre de Mathilde Bosseau, Les Sols. Au revoir.